France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des spectateurs et des acteurs ce samedi dans Plan large avec Arnaud Desplechin et David Ulofen et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. L'émotion a été intense jeudi soir quand nous avons appris la disparition de David Lynch. Avec lui, c'est un immense artiste, encore plus qu'un cinéaste, un des plus grands, sans aucun doute, des 50 dernières années qui disparaît et laisse orphelin nombre de celles et ceux qui, à un moment ou à un autre de leur vie, ont eu les orbites et les consciences calcinées par son cinéma incandescent. Nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises de parler ici de l'impact et de l'influence qu'il a eu sur toutes celles et ceux qui ont eu la chance d'en être les contemporains. La chance aussi de rencontrer à de plusieurs reprises l'homme aux cheveux dressés, aussi aimable et drôle que volontiers mutique quand il s'agissait d'expliciter une œuvre ésotérique dont il nous invitait plutôt à nous emparer pour l'habiter et la rêver, voire la cauchemarder comme bon nous en semblait. Nous lui rendrons un trop bref hommage en fin d'émission avec Mathieu Macheret en vous invitant à écouter et réécouter toutes les émissions qui lui furent et lui seront prochainement consacrés, tant on se souvient tous de la première fois qu'on a vu un de ses films, quel qu'il soit. Et c'est précisément à cette expérience de spectateur qu'Arnaud Desplechin a décidé de consacrer son nouveau film, précisément intitulé ainsi « Spectateur » avec un point d'exclamation, un film qui prend une forme inédite pour lui, celle d'un alliage d'essais en forme de found footage, de documentaire sur les traces de ses admirations et de fiction qui, sous les avatars multiples du pôle Dédalus qui le dédouble depuis Comment je me suis disputé, recrée les différentes stations de son éducation à l'image, un parcours qui va du Fantomas d'André Hunebelle au Shoah de Claude Lanzmann, en passant entre autres par Hitchcock, Truffaut et L'ombre crépusculaire de Jean-Luc Godard. Arnaud Desplechin, nous le retrouverons dans un instant et dans une salle de cinéma, bien entendu. Nous irons ensuite à la rencontre de David Ulofen pour voir comment, en transposant à l'écran le roman de Sorge Chalandon, Le quatrième mur, il a rencontré le Beyrouth d'aujourd'hui pour évoquer celui d'il y a 40 ans et s'interroger sur le tragique de l'histoire. Mais pour l'heure, il est temps d'aller au cinéma et dans ces salles mystérieuses et magiques où on le découvre seul ou à plusieurs.
Donc tu vas voir le Coppola?
Je vais le revoir.
Ah, parce que t'as déjà vu le film?
Ah oui, hier.
Et pourquoi t'y retournes?
Bah, les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois.
Combien de fois?
Je sais pas, trois fois.
Trois fois? Mais pourquoi?
Bah, la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre.
Alors, vous venez? Tu viens avec nous? On se met au milieu, au troisième rang.
Ah non, je peux pas voir les films en milieu de salle. Je vais sur le côté, septième rang, deuxième siège.
Ah, plus tard.
À plus tard.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Antoine Guillaume.
Est-ce que vous pouvez décrire où on est? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Je vois une salle sombre. On est dans une salle de cinéma qui s'appelle le Saint-Germain et qui est une salle de cinéphiles, qui est une salle historique, qui était devenue une salle privée et qui va revenir en activité. Et nous sommes assis au rang 83.
C'est important, la place où on est assis. On le voit dans votre film, Spectators. Peut-être que la place évolue avec la vie qu'on mène. Vous vous asseyez où en ce moment?
En ce moment, je m'assieds, ça dépend, les toutes petites salles, troisième rang, mais sinon c'est cinquième rang. Et toujours sur la... J'aime bien être assis plutôt sur la gauche. Mais avant, quand je suis arrivé à Paris, j'adorais m'asseoir au milieu et plutôt au troisième rang plutôt qu'au cinquième. Donc on change avec les moments, quoi. C'est, et en même temps, c'est un fétichisme que je trouve délicieux, parce que de quelque endroit qu'on se trouve, on voit exactement la même chose tous au cinéma, alors qu'au théâtre, on voit pas la même chose. Chaque angle est singulier. Et ce qui est formidable et très démocratique au cinéma, c'est qu'on voit tous la même chose. C'est pour ça qu'on est tous maniaques, c'est où est-ce qu'on va s'asseoir dans la salle, parce qu'on a l'impression qu'on conquiert, vous voyez, une singularité, alors qu'en fait, le principe même du cinéma, c'est qu'on voit le point de vue du réalisateur, le point de vue de la caméra.
Oui, mais ça veut dire tout de même qu'on regarde toujours un film du point de vue, en tout cas de la place qu'on occupe dans le monde, malgré tout. Et c'est ça peut-être l'expérience du spectateur, c'est qu'on voit tous le même film, mais personne ne le voit de la même façon, et donc personne ne voit le même film.
Ben oui, c'est ça. C'est merveilleux. Oui. Chacun, c'est aussi ce que vous voyez. C'est une façon de décrypter le mot de Truffaut qui disait tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma. Alors Stanley Cavell disait d'une autre manière. Il disait les films comptent, films matter. Et c'est que tout le monde a un avis. Si vous allez à une exposition de peinture, personne va dire non. Alors la salle 3, c'était nul. Mais n'importe quel spectateur, de n'importe quel âge, qu'il aille souvent au cinéma ou qu'il n'y aille jamais, il voit un film, que ce soit à la télévision ou dans une salle, il dit franchement, l'actrice, à la fin, c'est pas du tout crédible, etc. Le début était bien, mais au milieu, il y a un vrai trou. Tout le monde a un avis sur le film, etc. Les films comptent, c'est-à-dire que chaque fauteuil occupé vibre de l'engagement des spectateurs, mais qui sont persuadés qu'ils ont un point de vue sur ce qu'ils regardent. Et ça, ce point de vue, il est évidemment, c'est terrifiant quand vous faites des films, et en même temps, c'est ça qui est excitant quand vous faites des films.
Vous avez cité Stanley Cavell et Truffaut, on y reviendra tout à l'heure, mais Stanley Cavell, c'est le départ de ce film, c'est une proposition qu'on vous a faite. Comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition et comment c'est devenu ce film si singulier qu'est Spectateur au pluriel avec un point d'exclamation ?
C'était Charles Gillibert dont j'ai appris, on ne se connaissait pas, qui m'a contacté, qui m'a dit j'ai lu que vous étiez un lecteur de Cavell et que vous l'aviez connu, et je l'ai connu. C'est donc un philosophe américain et qui m'a énormément apporté. J'ai eu la chance de partager des moments très importants avec lui à Boston et à Paris, et qui était un homme merveilleux par ailleurs, et outre que c'est un écrivain et un philosophe formidable, c'est aussi un homme merveilleux. Et donc on a partagé des moments. Il dit, est-ce que vous ne voudriez pas faire un documentaire sur les salles de cinéma et Stanley Cavell? Moi j'étais effaré, je lui ai dit, mais monsieur, à Charles Gillibert, je lui ai dit, je ne sais pas faire les documentaires. Et il m'a dit, bon bah tant pis. Et pendant le week-end, avec un esprit d'escalier, je me suis dit, ouais, mais j'aurais peut-être pu raconter ci ou raconter ça, etc. Et de faire une espèce de forme hybride. Et c'est pas du documentaire, il y aurait des passages documentaires, mais pas que, et serait monté, et ce qui sont une espèce de méditation autour de ce point de vue du spectateur, qui est la façon de Cavell de regarder les films, ce qui dit que les films nous apprennent quelque chose, nous montrent quelque chose, mais il prend jamais le point de vue auteuriste. C'est le film lui-même, et c'est nous, spectateurs, qui conférons une signification à ce que nous voyons sur l'écran. Alors, bien sûr, par ailleurs, il y a des auteurs, par ailleurs, il y a des grands artistes, par ailleurs, il y a vous voyez, il y a Robert Bresson, John Ford, etc. Par ailleurs, mais le film existe indépendamment de la fonction autrice. Et moi, c'est un engagement que j'ai, c'est la politique des films. Alors, en France, on a eu, et c'est un mouvement très important, la politique des auteurs, mais qui, aux États-Unis, s'est transformée en author theory, la théorie des auteurs. C'est-à-dire que tout ce qui est bien dans le film, c'est le réalisateur qui l'a fait. Eh ben moi, je crois que c'est pas vrai. Je crois que quand vous voyez Julia Roberts, c'est Julia Roberts qui est géniale, et je me souviens pas du nom du réalisateur. Donc tout ce qu'il y a dans le film ne vient pas forcément de son auteur. Et c'est ça qui est miraculeux. Donc on a fait le film du point de vue des spectateurs et pas des grands hommes ou des grandes femmes du cinéma.
Et c'est ce qui fait que dans les nombreux extraits qui sont convoqués dans ce film, il y a les chefs-d'œuvre incontestables, mais il y a aussi effectivement du cinéma parfois purement commercial, ou par la grâce d'un plan, d'un moment, il se passe quelque chose chez le spectateur.
Oui, je désirais pas. J'avais dit à Charles, dans ce fameux week-end où j'ai fait mon repentir, j'ai dit, ce qui serait cool, ce serait qu'il y ait une cascade de films, qu'on soit débordé par le nombre de films. Donc je disais à Charles, mais alors ça va être un cauchemar pour vous en termes de production, mais il dit, laissez-moi faire mon travail. Je l'ai laissé faire son travail pour le mieux. Et voilà. Mais je me suis dit, je voulais pas que ce soit mes films fétiches. C'est pas sur ma cinéphilie. C'est soit des films qu'on peut partager. Voilà. Et il y a des cinéastes extrêmement importants. Je pense à Murnau, par exemple. Murnau est pas dans le film. Il y a pas de film japonais, au final. C'est stupéfiant, venant de moi. Et je vois que des films japonais. Mais c'est pas ma cinéphilie. C'est des films qu'on peut partager. et des images qu'on peut partager. Alors je pense à deux images, vous voyez déjà la fleur maigre, des petits enfants jouent à la luge sur un terri en Belgique. C'est un film totalement inconnu, des images en noir et blanc, mais j'en avais besoin parce qu'à ce moment-là du récit, on est en noir et blanc, je voulais parler des enfants, cette image en même temps d'insolence, de vitalité, de déchirement comme ça, la classe ouvrière en Belgique dans ces années-là, ça me bouleversait. Et à un moment, vous voyez King Kong, le film de Guillermin, qui n'est vraiment pas un bon film, qui n'est pas un mauvais film non plus, et l'image est absolument magique. Et la femme plonge dans l'eau. Et d'un coup, c'est une image d'un érotisme tout à fait saisissant. Et c'est des films qu'on peut partager, des images qu'on peut partager. Mais ce n'est pas les miennes, c'est les nôtres. Et c'était ça l'écueil que j'essayais d'éviter.
Comment s'est produit justement le surgissement de ces images qu'on retrouve dans le film? Vous avez parlé de l'effet dans le week-end que vous a fait la proposition de Charles Gilbert. C'est un véritable exercice d'anamnèse. Est-ce que vous êtes replongé justement, rêvant vos émotions de spectateur?
C'est-à-dire, j'écrivais des textes. Il y a plusieurs de ces textes qui sont des tombeaux pour des gens que j'ai connus et que j'ai aimés. C'est des bouts d'idées que je débats avec moi-même depuis 15 ans, 20 ans et tout ça. Je me dis, ah oui, mais quand même, il faudrait que je parle des Indiens au cinéma, quand même, c'est quand même important, etc. Et puis, par association d'idées, je sais pas, je parlais de... une des maisons du film s'appelle La Promesse Spectaculaire. J'ai même parlé de ce que le spectacle du monde, que ce soit dans des films dits d'auteur ou dans des films dits d'industrie, du fait que le monde est tout d'un coup nous apparaît merveilleusement spectaculaire quand il est projeté. Alors je me disais, je vais parler de l'eau, mais alors je vais parler, quelle image d'eau je pourrais mettre? Ah, je pourrais mettre Mission de Joffé, quand ils escaladent la cascade, là, comme ça. Ah, ou j'aurais pu mettre King Kong, etc. Alors tout ça s'est négocié à la fin de la table de montage. Vous voyez, c'était par un processus d'association d'idées.
Vous avez parlé de maisons, ce qu'on voit dans le film sont des chapitres, mais effectivement, le cinéma est très vite décrit comme une maison. Qu'est-ce que ça signifie, cette image de la maison ouverte sur le monde?
Le film suit le trajet de Paul Dédalus à différents âges, différents genres, différents, puisque il peut être Olga Milstein, la jeune actrice qui joue la jeune philosophe, etc. Il peut être un enfant, mais il n'est pas chronologique, on ne suit pas de ses 7 ans jusqu'à ses 30 ans. Non, des fois on revient en arrière, on repasse, etc. Donc sachant qu'on n'aurait pas une narration romanesque traditionnelle, je voulais que le film soit habitable par ses spectateurs. Et c'est pour ça, je me disais, ce qu'on va leur proposer, c'est des petites méditations, des exercices de philosophie appliqués, très très simples, et avec des pièces. Et ces pièces, je me disais, il y en a certaines que vous connaissez. Par exemple, il y a une pièce que j'aime beaucoup sur l'amour et le cinéma. Alors là, les spectateurs, ils sont calés. Alors il y a une pièce qui est assez grande, c'est le double séjour. C'est Shoah de Claude Lanzmann. Alors ça, c'est une autre pièce. Alors peut-être il y a des gens qui ont moins l'habitude de l'habiter. Et voilà, et il y en a sur les blagues, l'engagement politique, ou en tout cas de comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui met une condition plus déshéritée que soi, ça c'est une autre pièce. Donc on a conçu le film comme ça, et chaque fois il y avait un héros ou une héroïne qui vous invite à entrer dans la pièce et à l'habiter, et alors certaines elles vous sembleront plus familières, voilà, et c'était comme ça qu'on a conçu le film.
Il nous invite à y entrer dans ces pièces, Arnaud Desplechin, en nous regardant. Le tic du cinéma d'auteur depuis que des jeunes cinéastes ont découvert Monica de Bergman, c'était de mettre un regard caméra à la fin. Vous le mettez à chaque fois systématiquement au début. Pourquoi est-ce que vous avez voulu que ce film nous regarde dans les yeux comme ça?
On les appelait, c'était une intuition, c'est parce que je me disais, sinon les gens vont être perdus. Il faut, bien sûr, le film est un labyrinthe, mais il faut le transformer, à coup de plan, il faut qu'on transforme ce labyrinthe en maison. C'est ça qu'on se disait avec Fanny Burdino, avec qui on écrivait. Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée. Et en fait, on appelait ces plans des plans à la Wes Anderson. Parce que vous savez, Wes Anderson, c'est pas vraiment des regards caméra, mais il fait ses shot reverse, ses champs contre champs, sans amorce. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne à qui... Alors, c'est très, très frontal, avec des focales courtes. Et le personnage, Alan Schwarzman, vous regarde dans les yeux. Et c'est très, très, très troublant comme ça. Et comme j'aime beaucoup les films de Wes Anderson, je me suis dit, empruntons le chemin de Wes Anderson. Et du coup, ça donna un côté ludique au film. Et puis, je pouvais penser au film Maison de Wes Anderson, les films qui, avec les tiroirs de récits comme Grand Budapest Hotel ou Darjeeling Limited, comme ça, avec des pièces qui s'emboîtent l'une dans l'autre, etc. Et donc, le côté joueur de ces acteurs défiant la caméra et vous invitant à entrer dans le film, je trouvais ça cool.
Et précisément, il y a une double dimension dans ce film, à la fois très joueuse, un vrai plaisir du jeu dans tous les termes, y compris du jeu de comédien, et cette dimension dont vous avez parlé de tombeau. Vous parlez parfois de votre film comme d'une élégie. Il y a Pascal Canet dans le film, il aurait pu y avoir Serge Danet. On pense beaucoup à Jean-Luc Godard derrière, mais il me semble que la singularité de votre film, c'est de ne pas faire un film comme souvent, sur la mort du cinéma. Maintenant que je suis plus vieux, le cinéma va disparaître avec moi. Ce n'est pas du tout l'idée, il me semble, dans ce film.
Mais c'est-à-dire, la mort du cinéma, j'ai suivi les cours de Danet à Sancier, c'était éblouissant, éblouissant. La mort du cinéma, on me la promet depuis que j'ai 18 ans. On déplore, on dit le cinéma c'est fini. Donc vous voyez, étant donné l'âge canonique que je viens d'atteindre, j'ai commencé à m'habituer à cette idée et à penser que c'est... Le cinéma, il n'arrête pas de mourir, c'est un mort en très bonne santé. Mais c'est un vieux truc dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que quand on voit dans les premiers textes, quand le cinéma primitif du muet s'est fait remplacer par le cinéma plus élaboré, je vous parlais de Murnau et de choses comme ça, les gens ont dit c'est foutu, les films des Frères Lumière c'était nettement mieux que Murnau. Vous voyez, on a perdu la brutalité, etc. Le cinéma est devenu sonore. Catastrophe, le cinéma est mort, le cinéma est arrivé en couleur, fin des haricots, etc. La télévision arrive aux États-Unis, fin du cinéma, on invente le cinémascope, mort du cinéma. Voilà, et les plateformes, c'est une blague, les plateformes ça ne change rien, c'est juste une façon de faire de la télévision, ça ne change pas grand-chose à la donne. Donc du coup je me dis, oui c'est un mourant en très bonne santé le cinéma, quoi. Donc je n'arrive pas à prendre au sérieux, Godard évidemment a prophétisé la mort du cinéma, mais je n'arrive pas, et de manière magnifique, parce qu'il a chanter la mort du cinéma de manière déchirante et très très belle, mais c'est pas une idée que j'arrive à complètement prendre au sérieux.
Jean-Luc Godard est mort pendant la préparation, l'écriture de ce film, et en voyant ce film on se dit que si François Truffaut avait fait ses propres histoires du cinéma, peut-être que ça aurait pris la direction que vous avez prise dans ce film.
Oui, on a pensé énormément. Quand je dis « on », je pense à Fanny Burdino, moi, à Godard en faisant le film, en particulier avec ses histoires du cinéma. Des citations de Godard, il y en a partout dans le film. Je pense à la fin, la chanson de Tom Waits qui vient de Prénom Carmen. Je pense au voyage de Baudelaire qui est récité à un moment. Je pense à la scène de Vivre sa vie avec Olga Milstein. Ça n'arrête pas, quoi. On était hantés par ça. Et en même temps, c'est un trait qui m'a frappé, puisque Charles Gilbert, décidément, qui a produit les deux films dans l'année, c'est, je me suis dit, une histoire du cinéma godardienne, c'était le film de Carax que j'ai trouvé absolument sublime, enfin, c'est vraiment un de ses plus beaux films, d'une vitalité, d'une nostalgie en même temps que j'ai... Pas d'une nostalgie, non, c'est un film de combat, c'est très très frappant comme film, qui est la version godardienne, et moi, excusez ma pente, c'est la pente truffaldienne. Et voilà, et du coup, j'ai pensé que c'était drôle que ce soit le même producteur qui produit ces deux facettes d'histoire du cinéma.
Votre film se termine par une citation, une façon de décortiquer plan par plan, image par image, le début des 400 coups, par un Paul Dédalus, dernière incarnation, qui peut-être fera du cinéma après ça. Est-ce que vous, depuis que vous faites du cinéma, vous regardez les films autrement, ou vous avez gardé cette position de spectateur qui était la vôtre avant ?
Est-ce que je les regarde autrement ? Je les regarde de toutes les façons possibles et inimaginables. Évidemment, je regarde, je vois... Oui, je vois comment c'est filmé, par exemple. Oui, ça, je le vois. Je vois où est la caméra, je vois les raccords, j'entends les sons, comment ils sont mixés, etc. Ça m'empêche pas du tout d'être un spectateur le plus commun possible. Il m'est arrivé une toute petite histoire, si je devais présenter, j'en étais pas peu fier, je vais présenter Pretty Woman à la Cinémathèque. Et donc, évidemment, avant de faire ma présentation, j'avais grand trac, puisque je suis pas critique de cinéma, donc du coup, je révise le film. Et j'étais sur le canapé en train de réviser le film et de prendre des notes, et voilà que Julia Roberts laisse l'argent. Et Richard Gere sort, et c'est elle qui sort de la chambre d'hôtel de Richard Gere, elle laisse l'argent parce qu'elle est prostituée, sur le lit. C'est l'après-midi, et je suis sur le canapé. Ma compagne passe derrière moi et je crie « Mais prends l'argent, prends l'argent !» Et en pensant que peut-être elle va le prendre cette fois-ci. Et ma copine me dit « Tu as vu le film 12 fois, donc arrête avec Julia Roberts. » Et je n'arrive pas à m'arrêter. Donc vous voyez, le fait que je puisse avoir un regard de technicien ou un regard d'artiste ou un regard de fabricant ne m'empêche pas du tout d'espérer désespérément que si je crie suffisamment fort contre la télévision, peut-être Julia Roberts va prendre l'argent et le personnage de la prostituée va pouvoir récupérer une partie de son honneur et payer son loyer. À chaque fois, je crois que c'est possible.
D'ailleurs, en parlant de télévision, alors que Patrick Brion vient de prendre sa retraite, vous ne faites pas d'hiérarchie entre les écrans. Vous montrez l'émotion qu'on peut avoir même dans un dîner de famille où tout le monde s'occupe d'autre chose et vous interpelle sans cesse. Ça a été important pour vous, la télévision, et c'est toujours important de voir les films sur cet écran-là.
Très important pour moi. C'est aussi une autre époque, hein, de la télévision. J'évoquais les plateformes. il y a eu une volonté française, vous parliez de Patrick Brion, une volonté française unique au monde, unique, qui a été de dire le cinéma, c'est à vous, ça vous appartient. Et le cinéma dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le film du dimanche soir qui est populaire, le cinéma est un art classique, Patrick Brion, oui, mais le cinéma est un art moderne, donc c'est Claude Jean-Philippe. Le cinéma sert à parler de la société, donc c'est le dossier de l'écran. Le cinéma sert à tout. Donc il y avait vraiment une volonté de l'ORTF de faire partager les films avec tout le monde, les publics d'enfants bien sûr, les films muets qui passaient le dimanche matin, etc. Donc du coup pour moi ça a été très important parce qu'il fallait quand même aller à Lille, de Roubaix à Lille, ce qui n'était pas simple quand j'étais enfant, et ça prenait du temps et tous les films ne sortaient pas. Donc j'ai appris énormément, je vois énormément la télévision française. Je pense à des grands cinéastes, des très grands artistes. Scorsese doit beaucoup aux chaînes ethniques, puisqu'il y avait des canaux italiens à New York où ils pouvaient découvrir tout le cinéma italien qui passait dans les télés avec les nationalités. Mais Tarantino, c'est parce qu'il était à Los Angeles, il avait les chaînes asiatiques. Donc il a découvert tout le cinéma asiatique qui a tellement influencé son cinéma sur les chaînes de télé asiatiques qu'on pouvait capter à Los Angeles et qui venaient de Tokyo. La télévision, c'est un outil formidable. Donc j'ai pas du tout de hiérarchie là-dessus.
Et puis enfin, il y a un autre lieu sans écran, lui, mais où le cinéma habite complètement, et on le voit beaucoup dans votre film, c'est le café. Le café, c'est pas seulement pour citer Godard dans Vivre sa vie, c'est aussi parce que c'est le lieu par excellence où on va discuter d'un film après l'avoir vu, c'est le lieu de la conversation, et là on revient à Stanley Cavell. Le cinéma, c'est tout autant ce qu'on en dit que ce qu'on en voit.
Mais le cinéma, c'est ce qui nous permet de faire partie de la conversation du monde. Vous allez voir le monde sur un écran, vous sortez, vous conversez. Et ce qui est formidable, c'est que c'est une conversation très démocratique parce que n'importe qui, tout le monde, chacun est le bienvenu. Et ce chacun, ce tout le monde, ce n'importe qui, c'est très très important. Le fait qu'on puisse être toutes ces positions de locution en même temps. Et donc les films, c'est comme je vous disais, et Cavell parle merveilleusement de cette conversation, ce bruissement qu'il y a autour des films. Alors lui qui a écrit beaucoup sur le théâtre, qui a écrit sur la littérature, sur la philosophie, etc., il était tombé amoureux de ce bruissement. Voilà. Et moi, vous voyez, par exemple, conversation de café ou non, il y a une chose que j'adore dans ma position de spectateur, c'est je change d'avis, mais comme de chemise. Et ça ne m'arrivera jamais avec un roman, ça m'arrivera jamais avec une toile, ça m'arrive peut-être un tout petit peu avec la musique, et encore. Mais les films, je paye mon ticket, je vais voir un film, vous l'aimez bien, je ne l'aime pas. Donc je sors, je dis ce film est nul, etc. Et à ce moment, vous Antoine, vous me dites, non, il est tout à fait formidable, donc vous avez vu quelque chose, et moi j'étais assis dans la même salle, ailleurs dans la salle, et je n'ai rien vu. Donc j'ai perdu, vous avez gagné. Du coup, je deviens jaloux de vous, et du coup, je revois le film pour voir ce que vous avez vu, etc. Et ça, c'est faire partie de la conversation autour de ces images du monde qui nous sont projetées dans les salles de cinéma.
Merci beaucoup Arnaud Desplechin, on souhaite à tout le monde de changer d'avis sur les films. Merci.
Merci.
My real old boots.
Carter d'Arnaud Desplechin, sorti en salle ce mercredi. Les films qui sont mentionnés ou l'ont inspiré font l'objet d'une programmation spécifique sur la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes. On y retrouve également sur la Cinéthèque une carte blanche à David Cronenberg à l'occasion de la publication de la liste de ses films préférés et un hommage à la loi Veil qui fête ses 50 ans. Comme toujours, pour gagner des abonnements d'un an à la Cinéthèque, c'est en surveillant de près le fil Instagram de France Culture. Quant à la salle mythique où nous avons enregistré cet entretien avec Arnaud Desplechin, le Saint-Germain-des-Prés, il retrouvera d'ici quelques semaines sa vocation initiale de cinéma ouvert au public et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on s'aventure à présent dans le Beyrouth, en pleine guerre civile de 1982, à la veille de l'opération Paix en Galilée qui vit Israël envahir le Liban et des massacres des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila qui s'ensuivirent. C'est l'horizon tragique qui plane sur le quatrième mur, l'adaptation par David Holofen du roman de Sorge Chalandon, prix Goncourt des lycéens en 2013, multi-adapté depuis sur divers supports, mais pas encore au cinéma. Le réalisateur de Loin des Hommes et des Derniers Hommes trouve dans cette histoire utopique d'un metteur en scène de théâtre acharné à monter comme un lieu utopique de paix dans une zone de guerre, l'Antigone de Jean Anouilh, avec une distribution multiconfessionnelle, l'occasion d'interroger à nouveau ce qu'est une société en crise, hier comme aujourd'hui. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours.
Bienvenue à notre maison.
Allons, Sam.
Merci. Les Druzes boivent de l'alcool? Vous n'êtes pas musulman?
Nous avons notre propre doctrine. Nous sommes qui ferment sur par là. Ici, on manque de tout. Les cahiers pour l'école, l'électricité, l'eau, le pain. Vous, vous venez de la France avec votre théâtre. Vous claquez des doigts, vous êtes reçu dans tous les ministères et vous avez tout ce que vous voulez. Là, je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays.
C'est-à-dire?
Je ne crois pas que vous faites vraiment ça pour nous, mais surtout pour soulager votre conscience. Et ça, je le dis 100 fois à Samuel.
Je t'assure que je suis pas là pour soulager ma conscience, hein, tu te trompes.
Bonjour, David Holofen.
Bonjour.
C'est une proposition qu'on vous a faite de faire ce film. C'est une commande de votre productrice, je crois. Qu'est-ce qui vous a séduit d'emblée dans ce roman? Est-ce qu'il y a eu déjà des premières images qui vous sont arrivées quand vous avez lu ou relu peut-être le livre de Sorge Chalandon?
Non, à ce moment, j'appellerai pas ça une commande parce que j'ai lu le roman de Sorge Chalandon parce que je lis tous ses livres. Pour moi, c'est un auteur passionnant. J'étais d'ailleurs en train de me renseigner sur d'autres textes qui traitent d'une autre guerre civile. C'était Mon traître et Retour à Killybegs, qui se passe en Irlande, qui traite de la guerre civile entre républicains et loyalistes. Et quand j'ai lu Le quatrième mur, j'ai eu un sentiment de lecteur très fort, sensation d'un coup de poing dans le ventre à la fin du texte. Mais je m'étais pas dit, il y a une adaptation évidente de ce film. J'ai tout de suite peut-être trop vu les difficultés de fabrication d'un film si on adaptait ce texte. C'est un an après la lecture de ce livre que j'ai reçu un coup de fil de Christine Rouxel, qui est productrice, qui me disait qu'elle venait d'acquérir les droits du quatrième mur et qu'elle me proposait de l'adapter. Donc j'ai pas eu besoin de le relire, j'ai dit oui tout de suite, parce que s'il y avait une productrice qui estimait que le film était faisable, j'avais très très envie d'y aller. J'avais simplement posé comme condition de tourner le film à Beyrouth. Voilà.
Pourquoi est-ce qu'il fallait justement tourner le film à Beyrouth? On sait que souvent dans le cinéma occidental, les villes du Moyen-Orient sont un peu interchangeables. On ira pour des raisons de production. C'est important pour vous que Beyrouth soit peut-être le personnage principal de ce film?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de films qui traitent du Proche-Orient, qui sont filmés au Maroc, par exemple, pour des raisons d'équipe technique, de logistique, de sécurité, peut-être. Comme le texte de Sorge Chalandon traite tout le long de ces pages de la porosité entre l'illusion et le réel, je me suis dit, si le réel est déjà une reconstitution du réel qu'on fait dans un autre pays, je pense qu'on va évidemment affaiblir le propos. Je ne connaissais pas, moi, le Liban, et j'aurais été totalement angoissé d'avoir à reconstituer ou de donner une direction artistique à une reconstitution d'un pays que je ne connaissais pas. En revanche, en tournant à Beyrouth, en tournant au Liban, je pouvais me mettre dans les pas de Georges, à savoir ce metteur en scène qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, sur lequel il a des préjugés, des connaissances, mais qu'il ne connaît fondamentalement pas, et qui découvre le réel. Donc c'était une position beaucoup plus confortable pour moi, et en plus intéressante par rapport à cette porosité entre passé et présent. Ce que j'appelle la porosité entre passé et présent, c'est par exemple le fait d'avoir à représenter une guerre qui se passe dans les années 80. Nous sommes en 2022 lors du tournage, fin 2022, et tous les impacts de balles qu'on filme, les maisons détruites, sont des stigmates de la guerre des années 80. C'est-à-dire qu'on fait un film d'époque, mais on ne construit pas de décor, on capte les destructions encore présentes de cette guerre qui s'est terminée 40 ans plus tôt.
Il y a une mémoire de cette guerre également chez vos comédiens, qui pour la plupart, quasiment tous, sauf Laurent Lafitte, sont des acteurs et actrices libanais-libanaises, qui transportent aussi cette mémoire dans leur corps.
Tout à fait. On s'est appuyé sur une équipe artistique, à l'exception de Laurent Lafitte, entièrement libanaise. Comme dans le roman de Sorge, on a veillé à ce que toutes les communautés soient représentées, c'est-à-dire qu'on a réemployer ce système, cette utopie. La différence près d'ailleurs que chaque acteur ne joue pas forcément l'identité qui est la sienne. Le personnage d'Iman, qui est une Palestinienne, qui est amenée à jouer Antigone dans le projet théâtral qui est la colonne vertébrale du film. Donc Iman, qui est palestinienne dans le film, elle est jouée par Iman Al-Issa, qui est une Libanaise chiite. Simon Abkarian, qui joue un druze, c'est un Arménien du Liban. Un franco-libanais, mais c'est quelqu'un qui est fondamentalement arménien et qui se revendique comme arménien du Liban.
Et ça, c'était un choix de départ pour vous? Enfin, vous vouliez volontairement mélanger ces communautés, ou c'est parce que, comme il est dit dans le film, vous les voyez d'abord comme des comédiens avant d'être des représentants d'une communauté?
L'un puis l'autre. J'avais très envie de... Exactement comme Georges, en fait. J'avais très envie de m'appuyer sur toutes sortes de communautés, toutes les communautés présentes pour faire le film. Ça m'aurait dérangé, par exemple, de ne recruter des acteurs que dans la communauté chrétienne, qui est peut-être plus riche en acteurs, peut-être que, parce que plus riche tout court, peut-être ou plus tourné vers la France. Ça aurait été peut-être plus facile, plus évident de recruter que des acteurs chrétiens. Je voulais refuser et ne pas céder à cette facilité ou cette tentation. Ensuite, c'était évident que certains acteurs étaient plus proches de tel rôle, même si c'était pas sa propre communauté. Et donc, au final, j'ai fini par les considérer d'abord comme des acteurs. Tout comme Georges le fait dans le projet théâtral. On sera que des acteurs. Et c'est déjà pas mal, ajoute Georges.
Est-ce que vous avez rencontré les mêmes contraintes? Enfin, évidemment, la situation n'était pas la même, mais les mêmes contraintes que le personnage de Georges, et surtout avec ces acteurs qui, par des moments, sont pris précisément dans des logiques communautaires qui les empêchent de faire ce qu'ils voudraient. Tel personnage, joué par un comédien chiite, par exemple, quand son imam lui dit non, c'est plus possible, il doit se retirer. Est-ce que vous avez senti quand même qu'il y avait autour de vous des interférences possibles dues à la situation du Liban du moment où vous avez tourné en 2022?
Non. Je me suis très souvent retrouvé vraiment concrètement dans les pas de Georges, c'est-à-dire à faire les mêmes gestes qu'on voit dans le film, c'est-à-dire faire des castings dans toutes les communautés, moi-même avec une caméra comme on voit Laurent Lafitte le faire dans le film, etc. Donc il y a une mise en abîme qui est certaine, mais elle s'arrête dans la mesure où 40 ans plus tard, chez la jeune génération, la plupart des acteurs qui composent la troupe sont de jeunes acteurs, ils ont beaucoup moins envie d'être identifiés comme membres d'une communauté. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait aucun problème de compréhension entre les différentes communautés et qu'eux-mêmes ne se considéraient pas comme des représentants de leur communauté. S'il y a eu des problèmes de relations sur le tournage ou dans la fabrication de ce film, c'était à chaque fois des malentendus entre Occidentaux et Libanais. Je pense que les Libanais se connaissent par cœur les uns les autres. Ils n'ont aucune difficulté à jouer l'identité de l'autre. En revanche, j'ai noté qu'il y avait une grande différence de logiciel entre les Occidentaux, les Français, Belges, Luxembourgeois qui avaient sur le tournage, et les Libanais. Que là, il y avait source de malentendus, voire source de rancunes qui ne sont pas des rancunes de fabrication de films, mais de rancunes sur peut-être la position de l'Occident par rapport au Proche-Orient, la passivité de la France, par exemple, par rapport à ce qui se passe au Liban, et qui viennent affleurer par moments dans les relations quotidiennes.
Ben, c'est une question qui est posée explicitement dans le film. À 40 ans de distance, elle se pose peut-être de la même façon aujourd'hui, qui est la raison pour laquelle Georges veut monter ce projet. Est-ce que c'est vraiment une volonté utopique, artistique, de créer un espace hors la guerre possible à ce moment-là, ou est-ce que ce n'est pas sa propre mauvaise conscience qui est interrogée, et ou sa propre impuissance politique, puisqu'il y a toute une partie du roman de Sorchalandon que vous n'adaptez pas, qui est celle de l'engagement de Georges à l'extrême gauche, et c'est quelqu'un qui arrive avec déjà le sentiment d'un échec politique à avoir pu transformer le monde.
Oui, effectivement, dans le roman de Sorchalandon, il y a une première partie qui est centrée sur l'amitié entre Sam et Georges. Ils sont militants politiques et ça aboutit, cette première partie, à une sorte de désillusion pour la politique. Ils font partie de la gauche prolétarienne, ils abandonnent le militantisme. Et deuxième partie du roman où ces deux hommes, finalement, ne comptent plus tellement sur la politique pour changer le monde, mais sur l'art, le théâtre, en l'occurrence. Moi, je n'ai traité que la deuxième partie sans pour autant effacer la première. C'est-à-dire que pour moi, dans le film, Georges est un ancien militant politique déçu, désillusionné. Et il le dit d'ailleurs qu'il a confiance en Sam quand il répond aux questions de Marwan qui lui demande « Mais pourquoi tu fais confiance en Sam là, si t'es pas juif ?» Il lui répond « Mais il m'a appris le théâtre, on a milité ensemble. » Donc le militantisme, c'est juste qu'il n'y avait pas la place pour traiter cette première partie dans le film, mais c'est quelque chose sur lequel, je pense, Laurent s'est appuyé pour la construction de ce personnage, Laurent Lafitte, je veux dire. C'est quelqu'un qui, effectivement, a perdu ses illusions politiques et dont les dernières illusions sont celles de l'art comme pouvoir de transformation du monde. Dans cette foi en l'art, il y a certainement... peut-être de la mauvaise conscience, certainement, de la vanité, parce qu'il faut être un peu mégalomaniaque pour penser qu'avec une pièce de théâtre ou même un film, comme je le fais moi, on va changer quoi que ce soit, surtout quand le projet théâtral ou le film est relativement marginal, et en même temps une utopie sincère, profonde, une raison de vivre. Même. Donc tout ça se mélange. Et je retrouve ce même cocktail en moi, je pense. Moi, si j'ai fait du cinéma, c'est parce que j'ai l'espoir que c'est quelque chose qui me permet non pas d'être un acteur passif du monde, mais au moins d'y contribuer d'une façon ou d'une autre, d'agir d'une façon ou d'une autre. Donc dans un mélange de mégalomanie et d'humilité, parce que l'art est une succession de défaites, quoi, de défaites magnifiques. Non, le théâtre n'arrête pas les guerres. C'est un secret pour personne. Antigone n'a pas arrêté la guerre au Liban. La guerre, c'est arrêté pour d'autres raisons, 90, 91. Aucun film n'a arrêté une guerre. Et pour autant, je pense que l'utopie est totalement indispensable à la marche du monde, parce que c'est ce qui fait bouger les valeurs, de façon un peu mystérieuse, de façon un peu non linéaire et lente. Mais moi, je suis malgré tout persuadé, dans ce mélange de mauvaise conscience, de vanité, de mégalomanie, d'humanité, que le cinéma, par exemple, est absolument indispensable et très utile.
Ici, c'est le front, entre l'Orient et l'Occident. On est aux premières lignes. Et tu vois, à chaque fois que je tire, c'est ton futur que je défends.
Je crois pas.
Quand ils brûlent les églises, massacrent nos villages comme à Demour, ce sont des enfants, comme ceux de Paris, en sang sur le trottoir.
Vous massacrez aussi.
Pour que les massacres cessent.
Ce n'est pas la première fois que vous vous interrogez sur comment représenter la guerre, et peut-être moins la guerre que l'effet qu'elle a sur les êtres humains qui la subissent. Le film, historiquement parlant, on sait à peu près où il va, pour peu qu'on s'intéresse à la question de Beyrouth. Il y a notamment des scènes d'horreur qui sont à représenter. Vous êtes-vous interrogé sur comment les représenter ?
Ouais, ça, c'était, je dirais, la partie la plus difficile de tout le tournage, en réflexion puis en fabrication. Je pense aux scènes qui représentent les massacres de Sabra et Shatila. En réflexion, parce qu'on se pose forcément la question de comment représenter un massacre, jusqu'où aller, comment s'y prendre. Moi, en l'occurrence, je me suis accroché aux pages de Sorchalandon qui... lui a vécu ça en tant que journaliste et le décrit dans son livre et de façon très sensorielle. Qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il ne perçoit plus quand il rentre dans ses camps? Comment son cerveau se défend de ce qui est insupportable? Et j'ai essayé de faire ça avec les moyens du cinéma. Mais évidemment, on se pose la question de comment ne pas être obscène. En l'occurrence, moi, j'ai essayé de filmer l'effroi plus que l'effroyable. De filmer un visage qui découvre l'horreur plus que l'horreur. Voilà. Et d'une façon générale, effectivement, vous le disiez, c'est pas mon premier film qui traite de la violence ou de la guerre ou de la violence au sein d'une guerre. Moi, ma seule façon d'aborder cette violence et la guerre, c'est de la rendre insupportable, de rendre ce spectacle absolument inconfortable pour le spectateur. Il y a une autre scène dans le film que je vais pas dévoiler, mais qui est très difficile à regarder, et pour moi, ça ne peut pas être autrement. Et presque, j'ai presque envie de m'en excuser auprès des spectateurs. C'est normal que ça soit très difficile à regarder, mais pour moi, on ne peut pas filmer la violence et la guerre autrement que comme un spectacle insupportable. Parce que c'est le thème principal de ce film, c'est, je pense, la force corruptrice de la guerre. Il y a deux parties dans le film et dans la narration. Il y a le microcosme utopique, théâtral, et il y a tout ce qui l'entoure, le réel, la guerre. Georges est un idéaliste, un utopiste. Il pense qu'effectivement, de façon symbolique, ce petit microcosme peut donner la leçon au reste du monde, enfin du moins une source d'inspiration, d'exemple, et que ça peut se contaminer, cette espèce de volonté d'arrêter les haines interpersonnelles, etc. Et peut-être montrer que la logique de violence n'est pas la seule possible. Et puis, voilà, évidemment, c'est le contraire qui se passe dans le film. C'est globalement la guerre qui va venir s'immiscer, comme ça, de façon sournoise, dans les relations à l'intérieur de ce petit microcosme utopique théâtral, et qui va venir abîmer des relations avec des gens qui sont pourtant pleins de bonne volonté. Et cette force corruptrice qui est au centre du film, il faut la montrer pour ce qu'elle est. Et la violence, pour ce que c'est. Quelque chose d'avilissant, de corrupteur et de dégueulasse.
Oui, parce que le fameux quatrième mur qui sera brisé, pour le coup, ne sera pas brisé par ceux qui pourraient le faire par une adresse au spectateur, par exemple, selon les principes brechtiens ou autres. C'est la guerre qui va le briser, ce quatrième mur. Et une des questions que pose votre film, et c'est là qu'il est effectivement une mise en abîme de la tragédie grecque elle-même, c'est: peut-on échapper au tragique de l'histoire ?
Oui, en lisant le texte de Sorcha London, le quatrième mur, c'est la première fois que j'ai ressenti vraiment physiquement qu'est-ce que c'était le tragique dont vous parlez, le tragique de l'histoire. C'est la première fois que, parce que mis en situation, j'ai vraiment senti ce recyclage infini de la violence qui sème la violence à venir. Et c'est ce qu'on ressent en ce moment dans le Proche-Orient, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est une accumulation de rancunes légitimes des deux côtés. Je ne sais pas combien de générations il sera utile d'attendre pour que la rancune, même pas disparaisse, mais commence à diminuer. Et c'est ça le sentiment de tragique. Et comment en sortir de ce sentiment de tragique, de ce recyclage qui va de la tragédie de Sophocle, qui se transforme par exemple dans la tragédie d'Anouilh en 42, qu'il écrit en 42 mais qui est représenté en 44 en pleine occupation, que reprend ce personnage de Samuel Akounis, un juif de Salonique dont la famille est morte dans les camps, qui veut apporter sa pierre à l'édifice du Proche-Orient et qui se retrouve dans une guerre civile où à nouveau le quatrième mur est effectivement brisé parce que la guerre fait éruption dans le théâtre. Et nous-mêmes, nous sommes rattrapés par l'actualité. On a fini le film en 2023 et les personnes qui ont fabriqué ce film, principalement libanaises, se retrouvent dans la situation dans laquelle ils ont travaillé pour la représenter quelques mois plus tôt. Donc tout ça donne un sentiment de cycle perpétuel qui, moi, pour la première fois de ma vie, me fait ressentir très concrètement qu'est-ce que c'est le tragique.
Et votre compréhension du Liban a changé beaucoup à partir de ce que vous pouviez imaginer, de ce que vous en aviez peut-être déjà compris en lisant le livre de Sorcha London, mais d'y avoir tourné, d'y avoir vécu, d'y avoir rencontré toutes ces personnes, vous a fait comprendre peut-être quelque chose à cette grande incompréhensible que reste le Liban.
J'ai quelques clés supplémentaires de compréhension géopolitique, ça, c'est superficiel. D'ailleurs, le film n'est pas une explication géopolitique de cette guerre. Ça aurait été, je pense, assez peu légitime de la part d'un regard français porté par Sorcha London, que je porte aussi, moi, français. Si ça avait été une sorte d'explication objective à l'adresse des Libanais, ça aurait été un film pas très intéressant. Néanmoins, la fabrication du film a amené certaines clés de compréhension dans le rôle de la Syrie au cours de la guerre civile ou même actuelle, ou le rôle de l'Iran, des chiites. Je comprends mieux ce qui se passe. Mais la compréhension intime d'une guerre, c'est ça le principal. Et oui, j'ai mieux compris certaines choses. Je suis parfois un peu choqué des simplifications qui ont lieu, qui ont encore lieu suite au 7 octobre, etc. Je suis très dérangé par les gens qui donnent des leçons aux proches orientaux, qu'ils soient israéliens ou libanais ou palestiniens. Je pense que la société française, si on la mettait dans le même bain de violence, assez rapidement, on se retrouverait avec les mêmes violences à l'intérieur même des familles, à l'intérieur même des villes et des communautés. C'est ce que montre le film. Georges, c'est quelqu'un qui est un être pur, occidental, utopiste, et qui, pour des raisons de théâtre, de bonne volonté, va se plonger dans ce bain corrupteur, etc. Et le film montre que non, c'est pas parce qu'on est universaliste, c'est pas parce qu'on est français, c'est pas parce qu'on est pavé de bonnes intentions que ce bain ne joue pas sur nous. Donc c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que m'ont dit tous les Libanais, quelle que soit la communauté auquel ils appartenaient. Et c'est ça que j'avais pas bien compris avant de me lancer dans ce projet-là.
Merci beaucoup, David Allofen.
Merci à vous.
Le quatrième mur de David Allofen est sorti lui aussi en salle ce mercredi. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est l'heure d'ouvrir le journal du cinéma avec quelques autres films sur votre écran cette semaine.
Il y a plein de fleurs.
Les gens vont pas croire les images de ce film.
Ah hein. Oh, mais tout en fleurs là. Là, il y a une plante là à faire. Une triculaire tout en fleurs.
Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did. Except you.
Três, dois, um.
Não precisa sorrir.
Nós vamos sorrir. Sorriam.
Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête.
T'as vraiment une culotte, t'es con.
Yeah, I'm sorry.
If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on.
Did you order this?
I was Mishima Yukio pen name.
Sur vos écrans en ce moment, un herbier cinématographique où on filme les plantes comme on les butinerait, d'abord en numérique façon making-of, puis en pellicule comme une épiphanie infiniment renouvelée, c'est Cette promenade avec Marc Brown, le nouveau et beau poème de Pierre Creton et Vincent Barré, filmé dans leur habituel pays de Caux. Fabriqué à la main, lui aussi, sur presque 10 ans, c'est le très original et très australien aussi, film d'animation en stop-motion et marionnettes d'argile, fil de fer et vieux tissus, Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott qui en rajoute tellement dans le sordide dickensien qu'il en devient comique, une vraie curiosité récompensée du Cristal d'Or du meilleur film d'animation au dernier festival d'Annecy. Pas très gai non plus la vie de la famille Paiva, une fois que le père a été enlevé par les sbires de la junte brésilienne de 1971, tel que retracé à l'écran par Walter Salles pour son retour à la réalisation après 12 ans de silence. Grand bien lui en a pris, son émouvante contribution au travail de mémoire portée par une fascinante Fernanda Torres, récompensée par un très mérité Golden Globe, a rassemblé plus de 3 millions de Brésiliens. Dans un autre genre, c'est aussi une tentative de réparation d'un traumatisme national, celui de l'affaire Dutroux en Belgique, que se livre Fabrice Duvelst dans le dossier Mal d'Aurore, mais le cinéaste est trop écartelé entre des ambitions et directions contradictoires, voire pour certaines franchement déplaisantes. Pour convaincre, restent quelques beaux plans sur la ville de Charleroi et son architecture industrielle. C'est déjà ça. Pas beaucoup plus réussi non plus les amours sadomasochistes entre une chef d'entreprise et son stagiaire, voire parfois franchement ridicule. C'est Baby Girl de Alina Rein, où le métaphore film sur une Nicole Kidman botoxée, passage obligé dorénavant des films avec l'actrice, cache mal l'aspect pudibond de ce film qui invite à surtout ne jamais réaliser ses fantasmes parce que quand même ça fait désordre. Et puis enfin, le retour en salle d'un classique torturé et ambigu du cinéma japonais, c'est Le Pavillon d'or de Kon Ichikawa, sans doute la meilleure adaptation à l'écran de l'œuvre non moins torturée et ambiguë de Yukio Mishima. À noter que sur Mubi est arrivé le Mishima de Paul Schrader à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain. On en entend la belle musique composée par Philippe Glass. Reste encore à vous annoncer un festival Premier Plan à Angers. C'est jusqu'au 26 janvier. Festival qui, malgré le définancement honteux, comme le reste de la culture dans cette zone de la région Pays de la Loire, maintient une riche programmation avec notamment Nicolas Philibert en invité d'honneur. Et le 22 janvier, il y aura une journée d'échange autour des formes actuelles de transmission du cinéma. J'aurai le plaisir d'en être et de vous y rencontrer si vous en êtes également. On signale également, en attendant la sortie le 30 avril prochain de son beau et funèbre nouveau film Les Linceuls, une rétrospective David Cronenberg en sa présence à la Cinémathèque française. C'est du 20 janvier au 7 février. D'un David à l'autre, la transition était facile, quoique douloureuse.
The name is Gordon Cole, and I couldn't help but notice you from the booth. And, well, seeing your beauty now, I feel as though my stomach is filled with a team of bumblebees.
You don't have to shout, I can hear you.
I heard that. I heard that.
Do you want anything besides coffee?
I heard you perfectly.
And I can hear you honest, please.
You don't understand. You don't understand, Miss Johnson. Do you see these? For 20 years, I've been asking people to please speak up, but for some weird reason, I can hear you clear as a bell. Say something else.
Do you want pie with your coffee?
Good Lord, I can hear you perfectly. This is like some kind of miracle, a phenomenon.
What's wrong with miracles?
What's that?
This cherry pie is a miracle.
Would you please ask the lady with the log to speak up?
The pie. She was talking about the cherry pie.
I heard you again.
C'est un miracle pour le très malentendant directeur adjoint du FBI, Gordon Cole, d'entendre parfaitement Shelley Johnson, la serveuse du Double R, le diner, où se retrouvent tous les protagonistes de Twin Peaks. C'est un miracle aussi, sans doute, que l'œuvre de David Lynch, dont on vient d'entendre la voix dans le rôle du dit Gordon Cole, ait pu exister. Et on ne peut, malgré la tristesse de sa disparition, que se réjouir d'en avoir été les contemporains. Los Angeles brûle et David Lynch, a-t-on appris jeudi soir, a pris le dernier virage sur Mulholland Drive, lui qui avait embrasé les grands et petits écrans de son cinéma enflammé et ésotérique en seulement 10 longs métrages, une myriade de courts et d'épisodes télévisuels incandescents et fondateur de l'âge moderne des séries, la précitée Twin Peaks, dont le retour en 2017 est sans doute l'événement cinématographique le plus important de ce premier quart de siècle. L'artiste total qu'était David Lynch a fait l'objet d'un culte dès son premier long métrage. C'était Eraserhead en 1977 et a laissé un adjectif, et ils ne sont pas nombreux, les cinéastes, à entrer ainsi de leur vivant dans la postérité. L'adjectif, c'est lynchien. Qu'est-ce que ce lynchien signifie, Mathieu Macheret?
Ben Antoine, je crois que lynchien, ça implique un rapport très primitif aux images. C'est ce qu'on a toujours vu chez David Lynch, qui n'est pas un cinéaste qui vient de la cinéphilie, de la connaissance du cinéma et de son histoire, même s'il y a pu y avoir plein de références dans ses films. C'est quelqu'un qui vient de la peinture, des arts plastiques, qui a une formation de peintre, et qui, dans ses films... Il a souvent dit qu'il était passé au cinéma pour faire bouger ses peintures, pour voir ses peintures bouger. Dans ses films, il y a ce rapport toujours primitif aux images. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une certaine candeur, très nette, un goût pour le premier degré, une ambition de retrouver une innocence du récit. Et en même temps, cette candeur, elle se renverse très facilement, très rapidement, sur des gouffres et des abîmes d'effroi. Hein, et ça, cette versatilité-là, elle est vraiment au cœur du cinéma de David Lynch. Donc en effet, qu'on avait découvert avec cette, cette espèce de saillie surréaliste incroyable qui était Eraserhead, un film qui avait gagné le succès dans les séances de minuit, hein, où il avait mobilisé comme ça un
j'en petit
phénomène. Ouais, les spectateurs venaient le voir dans ces séances. Et dès ce premier film, qui a été fabriqué pendant 5 ans dans les caves d'une écurie abandonnée, avec une petite équipe et un acharnement de dingue, Lynch façonne un monde à la fois intérieur et extérieur, avec ce personnage joué par Jack Nance qui a une coupe en pétard incroyable et qui se découvre tout à coup le père d'un avorton à tête de veau écorché. Bon, on peut dire que c'est un cauchemar tout à fait incroyable. Ça pourrait n'être qu'une surréalisterie, une petite poche de bizarre, et ça n'est pas ça. C'est tout de suite ancré sur une expérience très profonde qui est celle de l'angoisse de la filiation, l'angoisse de la paternité. Il y a toute une efflorescence d'images dans le film qui sont liées à ça, les bouts de chair qui sortent du corps de la femme, les cordons ombilicaux qui flottent dans l'espace, etc. Il y a tout un imaginaire qui est lié à ça. Lynch, il a un parcours d'artiste infiltré à Hollywood, ce qui n'est jamais une position très enviable, hein. Ça crée beaucoup de malentendus. Mais dès Eraserhead, il est repéré par Hollywood, c'est un des producteurs exécutifs de Mel Brooks qui l'emmène pour tourner Elephant Man, et là, on a tout de suite un premier film qui connaît un certain succès. C'est une variation victorienne sur l'idée de la société du spectacle, cet Elephant Man ou un phénomène de foire, le fameux John Merrick qui est introduit dans la société anglaise de son époque. Et ce qui est très étonnant avec ce premier film hollywoodien, c'est que Lynch va situer la peur non pas du côté de personnages lambda, mais du côté du monstre. Il opère un retournement assez caractéristique où le monstre devient tout à coup le miroir du spectateur. Et là, on a un principe lynchien qui va valoir pour beaucoup de ses films. Ascension très rapide, il est tout de suite propulsé à la tête d'une super production qui est celle de Dune. Bon, alors on sait, il l'a raconté à quel point le film lui a échappé. La production est un peu partie à volo, etc. C'est une production d'Ino de Laurentiis monumentale. Mais alors, il faut le revoir aujourd'hui, Dune, et notamment en comparaison au film de Denis Villeneuve, on voit qu'il tient quand même quelque part toujours la route, et à quel point Lynch, même si le film ne tient pas, même s'il se délite beaucoup, à quel point Lynch était quand même un formidable inventeur d'images, à quel point il a misé sur quelque chose dans le roman de Frank Herbert qui était presque le côté chuchoté de ce roman, le côté télépathique, hein, des voix qui se répondent, qui se font écho. Donc là, il est au sommet, le film est un échec terrible, il chute tout de suite, et c'est Dino De Laurentiis qui lui remet le pied à l'étrier avec Blue Velvet, et décide de produire ce film qui est déjà presque un prototype de Twin Peaks. Hein, Blue Velvet, c'est une petite ville américaine où quand on gratte la surface proprette, quand on s'enfonce un peu dans les profondeurs, on découvre des tas d'insectes grouillants, en l'occurrence ici une sorte de mafia qui est l'autre visage de l'Amérique tranquille, directement issu des rêves eisenhoweriens. Et c'est Kyle MacLachlan, donc un toujours acteur fétiche de David Lynch, qui mène l'enquête sur une oreille coupée et qui, jeune garçon trop curieux, va descendre dans les méandres sadomaso de la ville. Alors le film ouvre évidemment la porte à Twin Peaks, série phare, mais aussi à tous ces univers baroques, tordus, tous ces films pliés en deux. Alors on peut citer Lost Highway en 97, il y aura Mulholland Drive en 2001, des films schizophrènes, des films scindés, hein, qui semblent recommencer en plein milieu, qui font renaître des motifs à partir des situations qu'ils mettaient en place, qui sont aussi des portraits très saisissants de Los Angeles. Miroir aux alouettes, ville écran, ville image, comme ça, qui transporte des personnages à travers de multiples identités. Hein, et c'est évidemment cette schizophrénie qui est mise au premier plan par Lynch et qui crée des récits tout à fait étonnants. Et puis, on l'a laissé en 2006 avec Inland Empire, qui était un astre noir tout à fait terrifiant, et encore un grand portrait d'actrice avec la formidable Laura Dern dans le premier rôle.
Thank you.
Merci Mathieu Macheret. L'hommage à David Lynch après la belle émission des Midi de Culture hier se poursuit aujourd'hui avec Zoé Sfez qui à 17h dans sa série musicale nous replongera dans la matière musicale justement de ses films. Pour réécouter notre plongée dans la matière noire de Twin Peaks The Return avec Bertrand Mandico, Paco Thielman et déjà Mathieu Macheret, c'était le 31 mars 2018 dans Plan Large. Nous avions aussi consacré tout un numéro spécial d'été à Mulholland Drive. Tout cela est sur le site et l'appli de Radio France. Et pour revoir les films de David Lynch, ils sont tous ou presque sur la Cinéthèque. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Ludovic Auger, Alex Dang et Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.